Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une critique de la gauche entre guillemets radicale au pouvoir autour du livre de Serge Halimi, Quand la gauche essayait, les leçons du pouvoir, 1924-1936-1944-1981, publié aux éditions Agone en 2017. Et pour parler de cet ouvrage et critiquer la perspective de l'auteur, donc Serge Halimi, rédacteur en chef du Monde diplomatique, mais également pour critiquer deux grandes expériences de la gauche entre guillemets radicale au pouvoir, ce que nous appelons depuis un certain nombre d'émissions avec Sylvain de Zone Subversive, la gauche nationale étatiste, une gauche qui veut un capitalisme qui soit davantage régulé par et dirigé par l'État. On se focalisera principalement sur l'expérience de la libération de 1944 à 1947 et du début du premier septennat de François Mitterrand de 1980 à 1983, puisque ce sont les deux seules périodes où, d'une part, un programme de régulation par l'État du capitalisme est réellement mis en place, alors que en 1924 ou après 1983, ce n'est plus le cas. On a déjà consacré une émission à 1936, donc on y reviendra uniquement très brièvement. L'émission était avec Charles Jacquier. Et d'autre part, 1944 et 1981, c'est également une expérience intéressante, puisque on a à ce moment-là au pouvoir les deux grands partis historiques de la gauche, à la fois le Parti socialiste et le Parti communiste français. Et évidemment, l'enjeu aujourd'hui de cette émission et de la critique de ces deux expériences, c'est que aujourd'hui, la France insoumise, qui est une sorte d'héritier à la fois du Parti communiste français pour sa ligne un petit peu étatiste, nationaliste, populiste, et en même temps du Parti socialiste, notamment par l'origine de ses cadres, notamment de Mélenchon, eh bien on pensait que c'était vraiment important de revenir sur ces deux expériences et également de critiquer la perspective qui est celle de Serge Halimi. Donc bonjour Sylvain.
Bonjour.
Pour commencer, on peut peut-être faire un aperçu général et une critique générale du livre. Donc peut-être pour être relativement fair-play, on peut dire que c'est un ouvrage qui est quand même relativement bien informé historiquement. Il y a quand même pas mal de références, une contextualisation qui est assez satisfaisante. Globalement, on arrive à comprendre le contexte historique de ces différents gouvernements de gauche. En revanche, on peut critiquer le fait que c'est une perspective, et ça je pense que c'est quelque chose de général dans le livre, qui vise finalement à faire l'inventaire des erreurs de gouvernance des partis de gauche au XXe siècle pour pouvoir, en réalité, que la gauche, lorsqu'elle retournerait au pouvoir au XXIe siècle, ne fasse pas les mêmes erreurs. Donc, en réalité, c'est un ouvrage pas vraiment historique, et c'est pour ça qu'on ne le critiquera pas tellement sur la dimension historique, mais c'est un ouvrage politique qui, en fait, à travers l'inventaire des erreurs passées de la gauche, et puis aussi hein, de ce qu'il y a eu de positif, qui dessine en creux une espèce de programme de gouvernement de gauche au XXIe siècle, qui est, pour résumer très bref, un gouvernement qui romprait plus ou moins fortement avec l'Union européenne pour éviter les contraintes bureaucratiques de l'Union européenne et les contraintes de la concurrence européenne, la concurrence du marché européen, et qui mettrait l'État comme principale institution de gestion du capitalisme. Et évidemment, c'est une perspective politique que on peut contester, notamment dans le sens où on ne voit pas ce qu'elle a apporté historiquement, même quand elle a été réalisée complètement. Pour prendre un exemple, on peut prendre la Yougoslavie de Tito, hein, même en dehors, hein, je veux dire, du bloc soviétique, avec des entreprises soi-disant autogérées. Ça n'a pas empêché le fait que ça restait, donc la Yougoslavie de Tito, un pays qui était soumis aux lois d'un État fort, que c'était un pays où les travailleurs et les travailleuses devaient obéir globalement aux lois du marché et aux contraintes du capitalisme, notamment l'obligation de se rendre au travail tous les matins pour produire tout et n'importe quoi de manière rentable. Et donc, la critique politique générale qu'on peut faire de ce livre, c'est que peu importe finalement les erreurs politiques de la gauche au pouvoir, l'enjeu n'est pas que la gauche arrive au pouvoir et qu'elle dirige mieux le capitalisme que la droite ou que la gauche dévoyée de type parti socialiste. Mais la perspective, à notre avis, est complètement autre, qui serait une perspective, pour reprendre de manière ironique le mot d'ordre de Mitterrand en 1980, celle d'une rupture avec le capitalisme, d'une rupture avec le travail salarié et ses servitudes, de rupture avec les contraintes impersonnelles du marché, de rupture également avec l'État, c'est-à-dire une forme politique où ce ne sont pas les gens qui décident de leur propre vie, mais ce sont des bureaucrates et des politiciens. Voilà pour ma part ce qu'on peut, je pense, dire de ce livre. Et justement, Sylvain, qu'est-ce que tu ajouterais un petit peu à cette critique de ce livre ?
Alors, je rajouterais que il a été, donc c'est une réédition, mais la première fois qu'il a été journaliste au Monde diplomatique, c'était, il me semble, après 93, quand le Parti socialiste était quasiment mort, Balladur était au pouvoir, le Parti socialiste avait pas plus d'une soixantaine de députés, donc c'était un contexte, on va dire, de plus pour expliquer l'effondrement total de la gauche. Et aujourd'hui, je pense qu'il est publié dans une autre perspective, c'est d'accompagner un peu une nouvelle gauche qui, pour accéder au pouvoir, hein, notamment la gauche de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, de François Ruffin, de tous ces gens-là, avec plus un côté, regarder les erreurs qui ont été faites par le passé et essayer de ne pas les reproduire. Effectivement, moi je pense que le livre est totalement dans cette perspective-là, avec quand même une illusion. L'illusion, c'est de dire que finalement la gauche au pouvoir aurait trahi. Voilà, qu'ils arrivent au pouvoir avec un programme, etc. Et qu'une fois au pouvoir, ils abandonnent leur promesse électorale et ils trahissent. C'est ce qu'on entend souvent dire, hein, dernièrement, quand Syriza a mis en place les plans d'austérité, on a dit qu'ils ont trahi également, voilà. Et je pense que c'est une analyse un peu limitée. Et il manque un peu dans le livre de Serge Halimi une analyse de l'État, une analyse de la bureaucratie, de la haute bourgeoisie d'État, de la haute administration, de ce qu'est l'État, de ce que sont les rapports de force même au sein de l'État. Et peut-être qu'on va pas développer, je vais pas développer mon analyse de l'État, mais disons que moi je considère que c'est très difficile de changer la société depuis l'État, depuis le sommet de l'État, parce que justement il y a une logique bureaucratique, il y a une logique administrative, livre, il y a y compris une classe sociale qui est la haute bourgeoisie d'État, hein, qui sont les énarques, qui sont les gens qui sont chefs de cabinet, qui dirigent les administrations, qui dirigent les institutions. Et tous ces gens-là sont évidemment opposés à toute forme de changement, puisque cette société, finalement, est une société qui leur donne une place sociale, une position sociale extrêmement élevée, et donc ils ne voient pas l'intérêt de changer de société, pour, notamment pour une société égalitaire où ils auraient la même place que chacun et chacune. Donc voilà, je pense qu'il manque quand même dans ce livre une analyse de classe de l'État, et que ce livre peut entretenir l'illusion, hein, de possibilité de changer les choses depuis le pouvoir d'État, même s'il a un autre aspect, hein, c'est que c'est quand même relativement sérieux au niveau historique, qu'il montre au niveau factuel qu'effectivement il y a énormément de limites dans ces gouvernements de gauche et qu'ils se heurtent finalement à la fois une réalité économique et à la fois une machine qui est l'État, depuis laquelle il est très difficile de changer les choses. Et puis je pense, alors effectivement, sur 1936, tu as déjà consacré une émission, mais j'ai l'impression que ce qui se dégage de ce livre, et de ce que dit Serge Hanimi, c'est un petit peu la recherche de modèles dans l'histoire. Hein. Les gauches aiment bien avoir des modèles soit exotiques dans notre pays du monde, voilà, soit des modèles plus historiques. Et là, le modèle, c'est un petit peu 1936, avec l'idée que finalement, pour changer la société, il faut à la fois que la gauche soit au pouvoir, une gauche vraiment de gauche, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin au hasard, plus des mouvements sociaux qui, alors évidemment des mouvements sociaux qui n'ont pas pour but de renverser l'État et de rompre avec le capitalisme pour inventer une autre société, mais des mouvements sociaux qui permettraient d'aiguillonner l'État, qui permettraient de faire pression sur l'État et justement sur ses hauts fonctionnaires, sur cette bourgeoisie d'État, pour permettre des réformes sociales. Et moi, je pense malheureusement que les révolutions sociales n'ont pas été obtenues par les gouvernements de gauche. Ces réformes sociales ont été obtenues pour une simple raison, c'est que la bourgeoisie de l'époque avait peur de la révolution. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, hein, on peut considérer qu'en 1936, il n'y avait pas forcément de possibilités révolutionnaires, que le mouvement social avait beaucoup de limites internes. Pareil pour 1945, on peut penser que de toute manière, les résistants communistes n'allaient pas continuer la lutte armée pour renverser l'État. Mais toujours est-il que la bourgeoisie considérait qu'on était dans un climat extrêmement dangereux, extrêmement menaçant pour la survie de sa propre classe, de la bourgeoisie. Et donc c'est pour cette raison-là, c'est pour empêcher la possibilité d'une révolution, que la bourgeoisie a bien accepté de mettre en place des réformes sociales. C'est pas du tout parce que la gauche était au pouvoir. Voilà mon point de vue sur le sujet.
Oui, c'est intéressant les différents points que tu as abordés, notamment l'analyse de classe. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher que Hanimi ne parle pas du tout des questions de classe sociale. Notamment, il montre bien comment, avant les années 1970, le fait que la paysannerie soit numériquement majoritaire en France et que on a consacré une émission là-dessus avec William autour de l'histoire de l'agriculture capitaliste, le fait qu'il y a eu depuis le 19e siècle en France une espèce d'alliance historique entre la paysannerie et la bourgeoisie autour du mot d'ordre travail, famille, propriété et patrie, pour se rappeler d'un fameux épisode voilà, où justement la paysannerie a été exaltée et la bourgeoisie au pouvoir. C'est intéressant qu'ils disent ça, que les ouvriers ont été minoritaires sociologiquement et les urbains aussi jusqu'aux années 70-80, et c'est comme ça qu'il explique la victoire de Mitterrand. Donc il y a quand même une analyse de classe, mais cette analyse de classe, elle s'arrête au fait qu'en fait il ne critique pas les classes sociales qui composent les gouvernements et les partis politiques français au XXe siècle. Et je pense que à une analyse critique de l'État, c'est-à-dire qui finalement est une espèce de méga-machine sociale bureaucratisée et qui finalement vise avant tout, hein, historiquement, à assurer sa propre reproduction comme structure qui domine l'ensemble de la société. Donc évidemment à travers les impôts, la répression armée, les mécanismes de contrôle sociaux pour pacifier la population comme la sécurité sociale, etc., etc. Il faudrait ajouter à cette analyse critique de l'État, donc qui est une instance de domination qui vise sa reproduction avant tout et la reproduction du capitalisme et pas du tout l'émancipation sociale, auquel d'ailleurs elle est un obstacle, elle a toujours été un obstacle socialement. Il faudrait y ajouter une analyse critique évidemment des partis et des classes sociales qui la composent. Donc Serge Halimi en parle un petit peu quand même, il dit bien que le Parti Socialiste n'est pas un parti ouvrier, au moins à partir de la Libération, c'est pas un parti ouvrier, c'est un parti avant tout de classe moyenne. Or, comme on l'a vu dans une autre émission avec Alain du Bloc Carbure, les classes moyennes sont des classes qui ont tendance à défendre le capitalisme parce qu'elles en bénéficient, notamment par le fait qu'elles sont mieux payées que les ouvriers et les ouvrières, qu'elles bénéficient de surcroît d'une autorité, d'une valorisation sociale, etc., etc. Et c'est vrai, même indépendamment de leur origine sociale, des apparatchiks, des gens qui dominent les appareils de parti. C'est-à-dire que même si Maurice Thorez, le secrétaire du Parti communiste français des années 30 jusqu'aux années 60, était effectivement un prolétaire, un ouvrier d'origine, ça n'empêchait pas que, une fois qu'il est au pouvoir dans cette espèce d'énorme structure qu'est le Parti communiste français, qui compte des millions d'électeurs et d'électrices, évidemment, pour reproduire sa propre position sociale, et c'est, on pourrait étendre l'analyse à tous les gens qui composent l'appareil du Parti communiste français et l'appareil de la CGT, ces gens-là, évidemment, pour reproduire leur propre position sociale, ils ont intérêt à ce que le capitalisme continue. Alors, à la limite, ils peuvent avoir intérêt à ce que le capitalisme s'étatise encore plus. Ça, c'est l'hypothèse, par exemple, de Alain Bir, dans l'encadrement capitaliste entre bourgeoisie et prolétariat. C'est que finalement, le projet politique du Parti communiste français, de la classe que tous ces apparatchiks forment, ça ne peut être que l'étatisation du capitalisme, parce qu'évidemment, ça leur donne plus de pouvoir. Mais l'émancipation sociale, c'est pas tellement ça, c'est pas leur intérêt, et clairement, c'est pas vers ça qu'ils tendent. On verra dans les exemples qu'on va développer sur 44, 47 et sur 81, 83, que clairement, la rupture avec le capitalisme, qui est le mot d'ordre de Mitterrand en 1981, ou que la révolution, qui était, disons, un peu l'horizon de certains penseurs, compagnons de route du Parti communiste français en 44-45, qu'il n'y aura ni révolution ni rupture avec le capitalisme, mais simplement une étatisation légère du capitalisme. Et justement, en parlant d'étatisation du capitalisme, ce que Serge Halimi oublie, enfin, même s'il montre bien que le capitalisme a fait peser des contraintes structurelles extrêmement fortes sur l'action des gouvernements de gauche, ça, c'est vrai qu'il le fait. Mais d'un autre côté, on a quand même l'illusion, enfin l'impression en le lisant, et l'illusion, on peut en retirer une certaine forme d'illusion, si on le croit sur parole, que finalement, si la gauche avait étatisé le capitalisme plus vite, plus fort, s'était dégagé par exemple des contraintes du marché commun européen au début des années 80, et bien que peut-être qu'elle aurait pu faire mieux que ce qu'elle a fait. Même en s'en tenant à ce qu'il dit dans le livre, que la gauche aurait pu faire au début des années 80, ça n'a pas quoi te faire rêver. Faire diminuer un peu le taux de chômage, augmenter un peu les salaires, rien d'extraordinaire, voilà, permettre aux mineurs de continuer de crever un peu plus longtemps au fond des mines de charbon. Bon, ça fait pas rêver, et au fond, le problème de toute l'analyse de Serge Halimi et des partis politiques dont il traite, c'est que finalement, leur horizon est complètement borné par l'État et le capitalisme comme des horizons indépassables, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre qui parlait du marxisme-léninisme, c'est-à-dire qu'ils sont complètement enfermés dans ce que même Bourdieu appelait une pensée d'État. Et Halimi envisage uniquement la transformation sociale, dans ce livre au moins, comme l'action de l'État. Mais, un, l'État a intérêt à se reproduire en tant que structure dominante de toute la société. Deux, l'État, structurellement, est lié au capitalisme puisqu'il vit des impôts qu'il prélève sur le capitalisme. Trois, l'État est gouverné en grande partie par une bourgeoisie d'État qui est très liée à la bourgeoisie capitaliste. Et quatre, les gens, même les politiciens qui sont élus à la tête de cet État, quand bien même ils seraient de gauche, quand bien même ils seraient d'origine ouvrière, auraient intérêt, pour assurer la reproduction de leur propre position sociale, à laisser le capitalisme et l'État et la société dans laquelle on vit aujourd'hui quasiment en l'État, sans jeu de mots, avec éventuellement quelques aménagements qui pourraient renforcer leur pouvoir ou qui pourraient leur assurer éventuellement une réélection, mais évidemment pas beaucoup plus. Et c'est pour ça que l'horizon politique de ce livre, et je pense que tu fais bien de rappeler qu'effectivement il a été publié en 93 aux éditions Robert Laffont, il a été réédité en 2000 aux éditions Arléa, et à chaque fois c'était des moments où la gauche était en pleine déconfiture, précisément parce qu'elle n'avait pas appliqué ce programme de rupture avec le capitalisme ou d'étatisation en réalité du capitalisme. Et malheureusement, aujourd'hui, s'il est republié, ce n'est pas pour dire encore une nouvelle fois que le Parti socialiste n'a pas tenu ses promesses, mais malheureusement, c'est pour enfermer une partie croissante de la population, une nouvelle fois, dans les illusions d'une étatisation du capitalisme, aujourd'hui, avec la France insoumise. Oui, effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir justement en 1944. Donc, pour rappeler un petit peu le contexte de cette expérience de 1944-1947, donc il y a une expérience assez inédite en France puisque c'est la première fois, à part le Front populaire, où le Parti socialiste et le Parti communiste sont au pouvoir et la différence avec 1936, c'est qu'en plus, il représente, à partir de 1946, la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Donc, les deux grands partis de gauche, alors qu'en 1936, c'était seulement avec les radicaux, donc qui est un parti globalement hein, de centre-gauche, c'était seulement avec eux qu'ils avaient la majorité. Il y a tout un tas d'intellectuels, comme notamment Albert Camus, qui pense que ça va être une transition de la résistance à la révolution, pour reprendre le sous-titre du journal Combat, issu de la résistance. Mais en réalité, il ne va pas y avoir quoi que ce soit de révolutionnaire dans ce qui va se passer entre 1944 et 1947, pour plusieurs raisons. Et là, je pense que pour ce qui est de son chapitre sur la libération, je pense qu'on peut dire que Serge Halimi est quand même relativement juste. Il n'a pas trop d'illusions, c'est-à-dire qu'il dit bien, en réalité, il n'y avait pas d'espoir de révolution en France, bon, notamment du fait que, il le dit bien, l'armée américaine était en France, c'était un peu compliqué de faire une révolution à ce moment-là. Surtout que, étant donné que les forces révolutionnaires, entre guillemets, c'était les forces du Parti communiste français, dirigé par le stalinien Maurice Thorez, on voit mal comment est-ce que cette révolution aurait pu être positive. Ça aurait été l'URSS bis, ça fait rien de très exaltant. Donc, bon, ce qui est clair, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de révolution émancipatrice en France en 1944, parce que la direction politique du mouvement ouvrier était complètement contre-révolutionnaire, stalinienne, et d'autre part parce qu'il y avait des forces d'occupation américaines, outre le fait qu'il y avait également le général de Gaulle qui avait réussi à mettre sous sa botte la police française et l'armée. Mais ce qui est intéressant malgré tout dans l'expérience de la libération, c'est, je pense, deux choses. Une chose sur les partis de gauche. Il montre bien, Serge Halimi, comment est-ce que le Parti Socialiste, encore une fois, qui disait en 1920 que c'était un parti révolutionnaire, un parti de lutte de classe, qu'en réalité, le Parti Socialiste, une fois au pouvoir, fait le programme de la classe sociale qui le soutient, c'est-à-dire les classes moyennes essentiellement, et donc fait un programme globalement d'accommodement avec la bourgeoisie, de légère étatisation du capitalisme, et en l'occurrence, entre 44 et 47, puisque, et Halimi, je pense, le montre assez bien, c'est à peu près la seule solution hein, pour, en dehors d'une révolution communiste libertaire, mais qui n'a pas eu lieu, et, étant donné l'état du prolétariat en France, de tout un tas d'autres choses, ça aurait pu difficilement arriver, eh bien, le Parti Socialiste va aller demander, de l'argent au capitalisme américain. Et voilà, rien de très extraordinaire. Maintenant, on est habitué hein, à cette posture du Parti Socialiste, qui à l'époque était quand même un peu plus radical dans sa posture, factuellement, qui aboutissait à peu près à la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire globalement une collaboration avec le capital français et international. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, dans cette expérience de la libération, c'est le Parti communiste français, qui, comme à son habitude, n'est pas le parti qui défend les intérêts de la classe ouvrière, mais qui est un parti dont l'orientation stratégique est définie à Moscou, en fonction des intérêts de l'URSS. Ça, c'est ce que dit d'ailleurs aussi ses critiques, hein, notamment Léon Blum qui dit ça. Alors bon, sous un angle un peu patriotique, c'est un parti de l'étranger et tout ça. Je pense que c'est pas ça qui est intéressant, c'est de montrer que le parti communiste n'a jamais dans son histoire défendu les intérêts du prolétariat, ou alors uniquement dans une mesure extrêmement faible, c'est-à-dire, pour pas perdre complètement sa base électorale et syndicale, demander un peu des meilleurs salaires, tout en acceptant la dictature de l'usine, le maintien du système capitaliste, le maintien de l'État français parlementaire bourgeois. Et entre 1944 et 1947, le Parti communiste français va pousser sa politique d'accommodement avec le capitalisme français très très loin, puisque en fait, comme ils sont au gouvernement, et comme la politique de Moscou c'est « il faut y aller doucement, on est dans la sphère d'intérêt des États-Unis, il faut réussir à se maintenir au gouvernement, il faut rassurer les classes moyennes, il faut même essayer d'attirer électoralement les classes moyennes », il faut éviter toute forme d'agitation révolutionnaire qui donnerait un prétexte à l'exclusion du Parti communiste français du gouvernement. La seule perspective étant non pas comme en Europe de l'Est, la prise du pouvoir militaire par les divisions blindées soviétiques, mais plutôt une arrivée au pouvoir démocratique, entre guillemets. La stratégie du Parti communiste français, ça va être non seulement de ne pas faire la révolution, quoi de plus étonnant, mais en plus de demander à la classe ouvrière de se sacrifier pendant 3 ans, alors qu'elle a déjà souffert depuis au moins 1938 et l'écrasement de la grève générale de novembre 1938, et particulièrement sous Vichy et sous l'occupation allemande, elle va lui demander en fait de se sacrifier, d'obéir aux bourgeois qui reprennent très rapidement le contrôle de leurs entreprises dans à peu près tous les cas, et après avoir collaboré avec l'Allemagne et avec Vichy, ou d'obéir à un nouveau patron, qui est l'État, puisqu'il y a une partie des entreprises hein, qui sont nationalisées à ce moment-là, notamment les entreprises de charbon, d'obéir à cet État patron qui leur demande à peu près la même chose que sous l'occupation, c'est-à-dire une très forte productivité, des longues journées de travail, des mauvaises conditions de travail, tout ça pour un salaire ridicule. Et j'aimerais la lire, ce qu'a dit Maurice Thérèse, justement, en 1944-1945, aux mineurs de charbon, qui étaient un petit peu impatients d'en finir un petit peu avec l'exploitation, au moins, disons, avec les formes extrêmes d'exploitation qu'ils subissaient depuis l'occupation et qui continuaient avec la libération. Maurice Thérèse déclarait « Produire, c'est aujourd'hui la forme la plus élevée de notre devoir de classe. Hier, l'arme, c'était le sabotage, l'action armée contre l'ennemi. Aujourd'hui, l'arme, c'est produire pour faire échec au mouvement réactionnaire. Les paresseux ne seront jamais de bons communistes, de bons révolutionnaires, jamais, jamais. Vous saurez faire votre devoir. Nous gagnerons la bataille de la production comme nous avons gagné la bataille de la libération. » Donc, à part, on va dire, le vocabulaire vaguement marxiste, bon, ça ressemble à peu près à un discours du MEDEF aujourd'hui. Voilà, on peut vraiment voir dans le Parti communiste français une force qui a appuyé le retour en force du capitalisme français, de la bourgeoisie française, de l'État français, qui était quand même très affaibli, notamment, enfin surtout en termes de légitimité, hein, après 1944, la collaboration de l'écrasante majorité des patrons avec Vichy et avec l'Allemagne. Et donc le Parti communiste français va globalement aider le capitalisme français à se remettre en selle, avant que le capitalisme français et l'État français, sous pression des Américains avec le début de la guerre froide en 1947, n'excluent le Parti communiste français du pouvoir. Et alors là, miraculeusement, ils vont se souvenir qu'ils sont révolutionnaires, soi-disant, et ils vont pousser à des grèves très importantes dans le nord de la France, dans le bassin minier, qui vont être réprimés de manière impitoyable, notamment avec des chars d'assaut, etc., etc. Mais bon, on voit encore une fois la duplicité du Parti communiste français. Et après, peut-être pour finir, la deuxième critique qu'on peut faire de cette période, évidemment, c'est le fait que, comme tu le disais, Sylvain, comme il y a quand même une peur d'une prise du pouvoir par le Parti communiste français, y compris par les urnes, ou du moins voilà d'une forte contestation sociale, eh bien la bourgeoisie française va lâcher du lest, et De Gaulle, qui est un petit peu leur espèce voilà de leader, hein, puisque la droite est complètement en décapiture, il reste plus que De Gaulle va mettre en place un espèce de compromis social qui maintient l'exploitation capitaliste, qui maintient l'État, qui maintient le capitalisme, mais avec quelques avantages pour les salariés, mais sans évidemment rien changer à l'ordre existant. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quelque chose d'un peu paradoxal à défendre le Conseil national de la Résistance et son programme, qui certes est fort sympathique, surtout étant donné les conditions de travail aujourd'hui, mais qui est un programme qui s'accommode à l'existant et qui permet à la bourgeoisie de retourner au pouvoir, au capitalisme français de se remettre tranquillement en place. Et dans compromis social, il faut vraiment insister sur le compromis. Bien sûr que la sécurité sociale a des aspects très sympathiques et que aujourd'hui c'est effectivement une institution dont beaucoup de gens ont besoin pour survivre, mais cette institution entre guillemets, elle a un coût, bon, notamment financier, et du coup qui nécessite que le capitalisme français marche bien, mais aussi elle a un coût, c'est-à-dire d'accepter le maintien de l'ordre existant, de l'exploitation, qui d'ailleurs crée les maladies, les burn-out, les accidents du travail, qui sont précisément pris en charge par la sécurité sociale. Donc, pour finir, je pense que c'est important de rester critique, même sur la partie positive, entre guillemets, de ce qui a été obtenu lors des gouvernements de gauche de 44-47, c'est-à-dire que le prix en a été la poursuite de l'exploitation capitaliste et de la domination de l'État jusqu'à aujourd'hui.
Comme aujourd'hui d'ailleurs, qui se bat à la pointe de la modernité, parce qu'à l'époque la modernité c'est pas le libéralisme et l'entreprise, c'est plutôt de la planification, l'État stratège et l'État qui définit les grandes orientations de la politique économique, de la politique industrielle, etc. Et que derrière cette logique quand même très technocratique, le point de vue des prolétaires, des exploités, des ouvriers, etc., n'est pas du tout pris en compte. C'est De Gaulle et le Parti communiste qui décident et qui, effectivement, en ce qui concerne les politiques industrielles ou politiques de structure, sont très ambitieux, mais en ce qui concerne la vie quotidienne des prolétaires, des classes populaires, c'est davantage des tickets de rationnement. Et effectivement, cette période aujourd'hui est assez mythifiée par la période du CNR et le pacte gaulo-communiste hein, qui est valorisé par des groupuscules, ça va de l'UPR, de François Asselineau jusqu'à une partie de l'extrême gauche, ça va de Natacha Polony jusqu'à François Ruffin, tout le monde est nostalgique de cette période. Et effectivement, je pense que c'est bien d'insister que le pacte gaulo-communiste entre De Gaulle et le Parti communiste, alors il y a des... Ce pacte a lieu pour aussi des raisons, on va dire, géostratégiques, hein, que Moscou aime bien De Gaulle parce qu'il s'oppose aux États-Unis, mais aussi pour des raisons politiques et de contrôle de la société française. Et ce pacte, c'est effectivement, De Gaulle va voir Maurice Thorez et les cadres du Parti communiste en leur disant, écoutez, je vais appliquer les réformes que vous souhaitez depuis longtemps, les réformes que la CGT et le Parti communiste veulent mettre en place. Mais à une condition, je ne veux pas de grève. Je ne veux pas de révolte sociale, je ne veux pas entendre la classe ouvrière. Effectivement, c'est ce qui va se passer pendant cette période, pendant pas mal de temps, et le Parti communiste, en tout cas, va tout faire pour que ça passe, que ça se passe comme ça. Et du côté du Parti communiste, effectivement, ils vont accepter des réformes sociales ambitieuses, mais en condamnant les grèves, hein, Maurice Thorez, en plus de faire l'apologie de la production, va avoir cette fameuse phrase de dire la grève, c'est l'arme des trucks, c'est les gens qui font grève sont au service des États-Unis et cherchent à déstabiliser la France. Et le Parti communiste va systématiquement empêcher les grèves, va dire la grève, c'est pas bien, c'est contraire aux intérêts de la classe ouvrière française, c'est contraire aux intérêts de la France et de la reconstruction. Là, on est dans une phase où il faut reprendre la construction, la production, il faut reconstruire la France. C'est pas le moment de faire accepter. Le Parti communiste aura très souvent ce discours en disant il faut faire la révolution, mais là, vous comprenez, c'est pas le moment de faire grève. Bien heureusement, comme tu l'as rappelé, bien heureusement, la classe ouvrière, le prolétariat, ne va pas se contenter des promesses du Parti communiste et ne va pas se contenter de ce pacte gaulo-communiste. Il y aura des grèves, et il y aura des grèves, pour le coup, réprimées par la gauche, puisque c'est Jules Mock, ministre socialiste de l'Intérieur, qui va, comme tu l'as dit, va pas hésiter à réprimer très durement les grèves qui se déroulent pendant ce moment-là. Et le Parti communiste va clairement être du côté de la répression. On va soutenir l'État contre la classe ouvrière, du moment que la classe ouvrière se révolte. Et puis il y a un basculement en 1947 avec la grève à Renault-Billancourt, qui est un peu un bastion de la gauche communiste à l'époque. Et finalement, il y aura malgré tout des ouvriers dans ce bastion contrôlé par la CGT. Il y aura une grève très très importante. Et le Parti communiste va être obligé de s'opposer au gouvernement à ce moment-là, quand les grèves deviennent tellement importantes que le double discours du Parti communiste va apparaître trop grotesque et intenable.
Oui, c'est intéressant effectivement de montrer que finalement ce qui se passe en 1944-47, c'est une modernisation étatique du capitalisme. C'est le diagnostic hein, qui est assez ancien en France, que le secteur privé n'est pas assez dynamique, que voilà, ce sont des entreprises familiales qui visent des très forts taux de profit mais qui refusent de moderniser leurs installations, qui sont pas compétitives sur le marché international, etc., etc. Et donc du coup, quand la bourgeoisie est défaillante entre guillemets pour permettre au capitalisme national de se développer, de rattraper son retard par rapport à ses principaux concurrents, il faut que l'État le fasse. Et ce qu'oublient un peu vite les gens qui font l'apologie de cette période, c'est que ce qui va se passer avec le tournant de la rigueur de Mitterrand de 1983, c'est que l'État a un rôle dans le néolibéralisme. Le néolibéralisme, ce n'est pas la victoire du marché contre l'État. C'est la fin d'un État qui modernise le capitalisme, qui en est le principal fer de lance, et c'est un État qui doit, au contraire, qui doit mettre le minimum de contraintes au capital privé pour que celui-ci puisse se transnationaliser, se financiariser, diminuer ses coûts de production par des licenciements et par des baisses des salaires, etc., etc. Et c'est pour ça que on ne peut pas aujourd'hui dire il faudrait refaire comme en 44-47, puisque d'une part, ce n'est pas souhaitable. Qui a envie de retourner dans les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais? Qui a envie de retourner au ticket de rationnement? Qui a envie, voilà, d'un État tout puissant, d'une des classes populaires intégralement contrôlées, soit par les compagnies paternalistes, soit par la CGT et le Parti communiste stalinien, aussi du fait que ce n'est plus possible. Et c'est ce qui va expliquer, en fait, l'échec de l'expérience Mitterrand 80-83, même si, évidemment, on peut être d'accord avec Serge Halimi que la gauche, en 80-83, n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait faire pour se donner les moyens d'une politique keynésienne de relance nationale, de diminution de l'important des importations, de reconquête du marché intérieur par les entreprises françaises, etc., etc. Mais fondamentalement, même si la gauche de 80-83 avait eu comme conseiller Serge Halimi et son omniscience, on peut douter que ça aurait donné des résultats si extraordinaires que ça. Il y a eu d'autres relances keynésiennes dans l'histoire. Pour prendre un exemple, le cas de la Chine. La Chine a été un pays plus que keynésien, un pays où l'intégralité du capitalisme était étatisée. Mais au bout d'un moment, le capitalisme chinois ne fonctionnait plus. Et donc, il a dû progressivement se libéraliser sous peine, eh bien, tout simplement, d'être complètement obsolète sur le plan militaire et sur le plan des forces productives par rapport au capitalisme libéral. Donc, en fait, au fond, le tournant néolibéral de l'État était relativement inévitable, même si, évidemment, on peut critiquer le fait que le Parti Socialiste, en 80-83, l'a accéléré, l'a peut-être fait peser encore plus que nécessaire sur les classes populaires, mais fondamentalement, ce n'était pas possible de faire grand-chose. Et c'est pour ça que, sur la quatrième de couverture, Serge Halimi dit « La gauche a chevauché au pouvoir la puissance des passions collectives, dont celle de l'égalité, mais elle a accepté ensuite de les dompter, avant de les étouffer sous une couverture de rationalité technique. Cette retraite bureaucratique, cette nouvelle conscience qui ne voit dans le monde que moyens et machines ont forgé les barreaux de sa cage. » Et je pense que une des limites du livre de Serge Halimi, c'est qu'il insiste beaucoup sur le fait que les contraintes, au final, du capitalisme n'étaient pas si fortes que ça, et que, au fond, c'était plus une espèce de rationalisation a posteriori des échecs de la gauche. Et je pense au contraire qu'il ne faut pas sous-estimer les contraintes structurelles du capitalisme et de l'État, et que ça ne sert à rien de s'illusionner sur la possibilité de transformer dans le cadre de l'État et du capitalisme la vie, de l'améliorer réellement, et qu'il faut plutôt regarder ailleurs. En revanche, là où on peut être d'accord avec Serge Halimi, c'est que, évidemment, il y a des choses sur lesquelles la gauche avait une marge de manœuvre, et où là, elle porte une lourde responsabilité. Et cette lourde responsabilité, bon, alors évidemment, c'est d'avoir empêché la classe ouvrière de maintenir ou d'améliorer ses conditions de vie et de travail entre 44 et 47. Donc ça, c'est évidemment un premier point très important. Et puis d'autre part, évidemment, c'est la répression sanglante de tous les mouvements anticoloniaux. En 1945, le 8 1945, en Algérie, ça fera des milliers de morts. Et là, on peut quand même se dire quand même que le Parti communiste français, lorsqu'il va dénoncer le fait que des Algériens aient brandi le drapeau algérien lors des manifestations qui célébraient la victoire contre le nazisme le 8 mai 1945, drapeaux algériens qui vont provoquer la répression policière, qui va faire plusieurs centaines de morts, et ensuite il va y avoir des émeutes qui vont faire 200 morts du côté des Européens, et ensuite ça va amener les Européens, enfin les colons et l'armée de concert à massacrer des milliers d'Algériens, eh bien le Parti communiste français arrivait quand même à dire, voilà, ces Algériens, ces émeutiers algériens étaient des agents provocateurs au service des hauts fonctionnaires vichistes, eux-mêmes instruments des trusts qui entendent transformer tranquillement l'Algérie en terre vichiste et fasciste contre la France. C'est de la citation, je ne suis pas allé sur égalité-réconciliation pour trouver ça. On peut évidemment rajouter la répression coloniale à Madagascar en 1947, la guerre d'Indochine, et là, le Parti communiste français ne va pas dire grand-chose. Alors oui, au bout d'un certain moment, la guerre d'Indochine, ils vont être contre, mais uniquement en raison de la guerre froide. Mais au début, ils n'ont pas grand-chose à redire, et contre la répression du mouvement en Algérie, on voit ce qu'ils pensent. Et puis après, évidemment, on pourrait rajouter le fait que 44-47 n'a rien apporté. Et là, il y avait vraiment la possibilité quand même d'apporter des choses du point de vue des femmes. Entre 1944 et 47, la seule chose qui a été gagnée par les femmes, c'est le droit de vote. Après des luttes, hein, après des décennies de lutte pour avoir le droit de vote, finalement, c'est pas le mouvement féministe qui va l'obtenir, c'est le général de Gaulle qui va le donner. D'une part, pour affaiblir le Parti communiste, puisqu'il pense que les femmes vont moins voter pour le Parti communiste que pour la droite. Et d'autre part, parce que il a vu en Angleterre que, finalement, le vote des femmes n'empêchait pas le maintien au pouvoir de la bourgeoisie et de partis conservateurs. Mais pour tout le reste, rien ne va être obtenu. L'avortement est criminalisé. C'est les mêmes lois qui sont en vigueur sous Vichy et qui d'ailleurs sont héritées de la Troisième République. La contraception est criminalisée, les salaires sont extrêmement faibles, le taux d'activité des femmes est extrêmement faible, les femmes vont être contraintes à énormément de grossesses. Aujourd'hui on parle de baby boom, mais en réalité c'était une contrainte à la procréation massive par absence de moyens de contraception et d'avortement, et puis par une propagande nataliste écrasante. Les femmes ne peuvent toujours pas ouvrir un compte en banque, le divorce est toujours très difficile à obtenir, et d'ailleurs, là où on voit que la libération n'a pas été la libération pour les femmes, c'est que les femmes qui avaient simplement couché avec des soldats allemands, pas qui avaient collaboré, pas qui avait fabriqué des chars, mais qui simplement avait couché avec des soldats allemands, vont être tendus, comme une sorte de restauration du patriarcat national. Donc on voit finalement que, au final, 44-47, le bilan est vraiment très maigre, que là où la gauche ne pouvait pas faire grand-chose, elle a fait encore pire sur les questions du capitalisme et les questions sociales, et que là où elle aurait pu faire des choses sur la question des femmes et la question des colonies, même si évidemment le colonialisme et le patriarcat ne s'abolissent pas à l'intérieur de l'État, mais disons qu'il y avait au moins la possibilité de quelques réformes substantielles, rien ne va être fait.
Oui, c'est vrai que les réformes ont été uniquement des réformes économiques et sociales, et que pour le coup, alors en tout cas la gauche à cette époque-là, notamment le Parti communiste, prétend représenter la classe ouvrière, mais il ne prétend pas représenter les femmes et les colonisés. Ça c'est extrêmement clair, et pour le coup, les femmes et les colonisés obtiendront davantage de liberté uniquement par leur lutte. Et ça, c'est uniquement après des périodes, un temps de lutte, notamment on pense à la guerre d'Algérie, etc., qu'il y aura une décolonisation, et pareil pour les femmes, où le droit à l'avortement viendra après un mouvement féministe très très puissant. Et à ce niveau-là, là pour le coup, la gauche, il y aurait tout un tas d'émissions à faire sur le rapport de la gauche par rapport aux femmes et par rapport aux colonies. Puisque même, on peut dire que la gauche voyait même une mission civilisatrice en ce qui concerne les colonies, hein, qu'il fallait apporter les lumières, la philosophie, la culture et même le savoir-faire industriel dans ces colonies. Et même la gauche a été plus pour les colonies hein, que pour la décolonisation, peut-être plus que la droite. Avec ce côté, on va apporter la culture, le savoir, les valeurs de la gauche, évidemment contre la vie décolonisée.
Oui, c'est effectivement important de le dire. Et d'ailleurs, ça nous permet de transitionner sur 1980-1983, puisque on aura l'occasion, quand on justement, de voir encore en 81-83 comment est-ce que la gauche, peut-être moins sur les femmes, mais en tout cas sur les personnes issues de l'immigration post-coloniale, comment est-ce que la gauche va se comporter vis-à-vis de ces prolétaires particulièrement exploités, notamment à Talbot-Poissy. Mais avant de d'aller là-dessus, il faut dire quand même que, et je pense que c'est important à comprendre aujourd'hui, que le Parti socialiste, en 1980-81, avait un programme d'apparence révolutionnaire. C'est-à-dire avec des mots d'ordre comme rupture avec le capitalisme, changer la vie, qui est un slogan d'inspiration situationniste. Hein, on a consacré une émission notamment à De la misère en milieu étudiant sur la critique situationniste du capitalisme avec toi, Sylvain. Il y a effectivement un programme qui a l'air comme ça très radical. Alors, on comprend mieux en lisant Serge Halimi, et ça je pense qu'il faut, lui reconnaître ce mérite, pourquoi est-ce que finalement le Parti Socialiste a ce programme de rupture ? En réalité, c'est parce que, d'une part, il doit piquer des électeurs au Parti communiste français pour devenir le premier parti de gauche en France. Donc, il y a évidemment une espèce de surenchère gauchiste là-dedans. Et d'autre part, Mitterrand s'affronte avec Michel Rocard, qui lui représente une gauche qui ne cherche pas du tout à faire dans la surenchère gauchiste, mais plutôt qui s'accommode très bien de l'économie de marché, du capitalisme libéral, qui prétend, voilà, qu'il faut moderniser la France et ses vieilles structures. Voilà, qui est pour vraiment une espèce de restructuration du capitalisme, un peu à la Giscard d'Estaing, avec un petit vernis de gauche. Et donc, dans ce contexte un petit peu politique, Mitterrand va être un peu poussé, hein, presque malgré lui, parce qu'il faut quand même se souvenir que Mitterrand, c'est quelqu'un qui dans les années 30 venait de l'extrême droite, proche de l'Action française quand même, et des ligues fascisantes. C'est quelqu'un qui a été ministre du maréchal Pétain, qui a reçu la plus haute distinction de Vichy, qui, après-guerre, a été dans un parti de centre-droit, qui ensuite, petit à petit, s'est rapproché du centre-gauche, et qui, sous la 4ème République, a été un ministre voilà de centre-gauche, notamment ministre de l'Intérieur et de la Justice pendant la guerre d'Algérie, qui a envoyé plusieurs personnes à la mort, alors que c'était des anticolonialistes algériens. Donc, effectivement, rien ne le prédisposait à avoir un discours radical. Mais bon, ce contexte, et puis le fait qu'on est dans la décennie après 68 et qu'il y a une espèce d'énorme enjeu à récupérer électoralement tout l'imaginaire de mai 68... changer la vie, rupture avec le capitalisme. Voilà, Mitterrand va faire ce programme, et comme le montre très bien Halimi, en réalité, c'est en y croyant à moitié, parce que, évidemment, Mitterrand n'est pas particulièrement un anticapitaliste, son parti n'est pas particulièrement anticapitaliste, et finalement, il ne s'attendait pas vraiment à gagner, et puis, voilà, il gagne contre Giscard d'Estaing, contre toute attente, et il faut quand même mettre en place son programme. Et comme je pense le montre bien Serge Halimi, il va mettre en place son programme de manière très maladroite. Bon, ça ne veut pas dire que son programme c'était n'importe quoi, c'était une espèce d'étatisation du capitalisme. Je pense que c'est pas nécessaire que ça aurait échoué. La question n'est pas est-ce que ces politiques auraient échoué. Je pense que une étatisation légèrement plus forte, une nationalisation légèrement plus forte du capitalisme était possible. Peut-être que ça aurait eu quelques retombées positives pour les classes populaires, mais globalement, ces retombées auraient été de courte durée. Ça aurait maintenu l'exploitation capitaliste et la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et finalement, ça n'aurait ajourné que pour 5 ou 10 ans la restructuration néolibérale du capitalisme. Donc bon, au final, peu importe si ça allait marcher ou pas, ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que l'étatisation du capitalisme avec les nationalisations de 1982, n'ont pas changé grand-chose pour les gens qui ont continué de devoir aller trimer dans les usines, dans les mines, dans les entreprises, pour des salaires d'abord un peu meilleurs, et puis ensuite, très rapidement, de pire en pire, puisque cette relance a coûté très cher. Finalement, cette relance, on pourrait presque dire, elle a permis de recapitaliser toutes les entreprises, Et ensuite, comme la gauche n'avait plus d'argent avec ses différents plans de relance et ses nationalisations, elle a dû se résoudre à des mesures comme les dévaluations et les diminutions de salaire, la désindexation des prix et des salaires. C'est-à-dire, en gros, s'il y a 10% d'inflation, si les prix augmentent de 10%, avant les salaires, avant le gouvernement Mitterrand, les salaires augmentaient de 10% aussi. Et là, c'est fini. Donc, on voit bien que la gauche, a finalement, c'est ce que diront les gens de droite après, dès 82-83, font, alors qu'ils ont encore un programme théoriquement de rupture avec le capitalisme, qui est simplement en pause, voilà, c'est une sorte de nouvelle politique économique, là, la fameuse NEP de Lénine, une espèce de pause avant la transition vers le socialisme. Parce que c'était vraiment les termes de l'époque, hein. Il y avait des gens du Parti Socialiste qui parlaient de transition vers le socialisme. Donc, bon, finalement, ce n'est pas une transition vers le socialisme, et finalement, le capitalisme s'est prouvé beaucoup plus difficile à réformer que prévu, même s'il aurait peut-être pu être réformé un petit peu mieux, mais peu importe, la politique keynésienne n'a pas marché, et finalement, ce qui se passe, c'est que l'échec précisément du keynésianisme va préparer les politiques néolibérales en leur donnant une pleine légitimité, même si je pense que c'est important de pas dire, comme je pense le dit Serge Halimi, oui, finalement, 80-83 discréditait le keynésianisme, alors qu'en réalité, ça aurait pu marcher. En réalité, encore une fois, ça aurait pu être un peu moins pire, ça aurait pu même être un peu mieux, mais fondamentalement, ça n'aurait pas changé la société telle qu'elle fonctionne, l'exploitation, les conditions de vie, les conditions de travail. Et au final, ce qu'on peut dire, c'est que un nouveau 1981 est à éviter pour deux raisons. D'une part, parce que avant cette période, voilà, de victoire de la gauche, toute l'énergie sociale serait consacrée à faire gagner un parti politique et non pas à mener des luttes sociales autonomes. Et d'autre part, parce que la victoire électorale entraînerait une démobilisation gigantesque. Et ça, Halimi le montre bien, mais il le prend mal. C'est-à-dire, il dit, oui, il aurait fallu qu'il y ait des très fortes mobilisations sociales pour que le gouvernement socialiste maintienne son programme. Mais c'est peut-être précisément parce qu'il est au pouvoir que ça entraîne une démobilisation sociale.
Oui, c'est vrai que pour le coup, il y a deux versions. Il y a la version qui dit finalement en 1980, il y a déjà un refus des luttes. On n'est plus dans les années 1968, on est dans un refus des luttes. Mais effectivement, pour le coup, l'arrivée au pouvoir du Parti Socialiste va permettre une mise au pas du mouvement social, des syndicats, du mouvement ouvrier, puisque tout simplement, quand le Parti Socialiste arrive au pouvoir, il y a Force Ouvrière, qui est un syndicat dont les dirigeants sont encartés au Parti Socialiste, donc ils sont très peu portés vers la contestation, en plus ils sont plutôt un syndicat modéré, attaché à la négociation. Il y a la CGT qui va tenir le discours dès que des ouvriers syndiqués CGT lancent une grève. Les responsables, les bureaucrates de la CGT vont les voir en leur disant attention, il ne faut pas embêter les camarades ministres, puisque le Parti communiste est au gouvernement à ce moment-là, hein, et la CGT considère que finalement, c'est, même si ce n'est pas un gouvernement communiste, c'est un gouvernement d'union de la gauche, et qu'il faut laisser faire ce gouvernement, qui doit mener une politique de gauche. Lui, il fait sa chance, et du coup, la CGT n'incite pas du tout à Pagade. Évidemment, la CFDT, c'est peut-être le syndicat, c'est peut-être à cette période-là où il y aura une mutation extrêmement forte, puisque la CFDT, dans les années 68, c'est un syndicat qui est pour le socialisme autogestionnaire, qui est pour, qui encourage les grèves, qui est pour même que les ouvriers créent eux-mêmes leur comité de grève en dehors des directions syndicales, pour une partie, et pour une part, la CFDT, hein, toujours à la même époque, c'est mon maire, c'est une direction qui est proche de Michel Rocard, et qui est pour une modernisation de l'économie, hein, et l'ambiguïté de la planification qui va être portée par la CFDT, et c'est un terme extrêmement ambigu, puisque c'est là aussi une planification qui est au service finalement de technocrates. Ça va être nuancé par le concept d'autogestion qui va être porté par la CFDT, mais ensuite l'autogestion va devenir le management néolibéral, puisqu'il n'est plus question pour les ouvriers de s'emparer de leur outil de production, mais en revanche, on va leur demander d'obéir aux ordres c'est ça l'autonomie, c'est d'anticiper les ordres de la direction. Et donc la CFDT va totalement incarner cette ambiguïté de la gauche rocardienne notamment. Et il y aura clairement une mise au pas, quand même, il faut le dire, une mise au pas au sein des syndicats, à la CGT, donc qui est stalinienne, donc c'est normal, et y compris à la CFDT qui va dénoncer l'extrême gauche, hein, puisque la plupart des libertaires et des trotskistes sont à la CFDT, en tout cas forment un courant important. Ces gens-là, on va leur dire non, il ne faut pas faire grève, voilà. Donc effectivement, le modèle de la gauche qui serait finalement d'accompagner par des mouvements sociaux bienveillants l'arrivée de la gauche au pouvoir, ça ne se passe pas comme ça. Ça a été une démobilisation totale, ça a été une mise au pas des syndicats et des organisations du mouvement social. Voilà. Ensuite, la question qui se pose, hein, c'est, ça renvoie en creux à ce que propose Serge Halimi, hein, qui montre bien tout ça. Serge Halimi est pour que des mouvements sociaux accompagnent la gauche au pouvoir, en disant qu'effectivement, le syndicalisme aurait été un peu plus fort et un peu plus offensif, il aurait peut-être aiguillonné le gouvernement vers un refus du tournant de la rigueur, finalement. Ce qui n'est pas forcément évident. Pour une simple raison, c'est que l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir, c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle classe dirigeante au pouvoir. Puisque le Parti Socialiste est associé plus ou moins à une petite bourgeoisie intellectuelle où ça va être, où la classe d'encadrement va arriver au pouvoir, finalement. C'est-à-dire une classe sociale qui n'est pas comme la vieille bourgeoisie, on va dire, attachée déjà à la défense d'une vieille France, etc., qui va être une petite bourgeoisie intellectuelle attachée à la modernisation et qui va vouloir, d'une part, influencer le pouvoir et d'autre part, accéder au pouvoir. Et effectivement, c'est ce que montre aussi le livre de Louis Janovin et de Jean-Pierre Garnier, la deuxième droite. Donc, c'est ces auteurs qui montrent que finalement, c'est l'arrivée d'une nouvelle classe sociale au pouvoir qui va remplacer l'ancienne bourgeoisie et qui va apporter une idéologie finalement de modernisation du capitalisme et faire en sorte que la gauche progressivement se rapproche, oui, du libéralisme. On peut même dire qu'il y a eu Thatcher en Angleterre, il y a eu Reagan aux États-Unis et à la même période, c'est la gauche qui fait le sale boulot que même la droite ne veut pas faire, selon la formule de Fabius. On a un véritable tournant de la rigueur avec l'apologie, hein, la suite après 83, c'est toute la période Bernard Tapie, vive la crise, vive l'entreprise, vive le marché, vive la compétition. Là, on est carrément dans la gauche très libérale.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser au fait que ça c'est quelque chose je pense d'intéressant que dit Halimi, c'est qu'il dit que de 74 à 81, le taux de profit des entreprises françaises va baisser, même des grandes entreprises françaises. Et la part des salaires dans la valeur ajoutée produite nationalement va rester à peu près la même, alors que au contraire sous Mitterrand, surtout à partir de 82-83, eh bien, les taux de profit vont augmenter et vont réatteindre des sommets qu'ils n'avaient plus atteints depuis les années 60. Et le pourcentage des salaires va diminuer à un niveau, encore plus faible que celui des années 60. Voilà, finalement, le Parti Socialiste, finalement, a résolu son ambiguïté entre modernisation du capitalisme et discours et posture gauchiste de rupture avec le capitalisme, tout simplement en choisissant la première option. Et je pense que par rapport à la mise au pas des luttes, c'est important de revenir sur un phénomène. Je pense que c'est intéressant de voir comment est-ce que Mitterrand va aussi constituer le gouvernement Mitterrand de 81-83 une espèce, enfin d'une extension de la classe sociale au pouvoir, puisqu'il va créer 200 000 postes de fonctionnaires. Et parmi ces fonctionnaires, il y aura en fait énormément d'anciens militants des années 68. Pas que ces militants étaient très radicaux. En général, c'était des gauchistes, des maoïstes, des trotskistes, des féministes institutionnels, etc., etc. Mais voilà, je pense que ça a pu contribuer aussi effectivement à cette mise au pas, c'est-à-dire le fait que des groupuscules qui pouvaient encore encourager une certaine forme d'agitation ouvrière vont se faire un petit peu happer par le gouvernement. Et justement, par rapport à cette mise au pas des luttes ouvrières, je pense que ça peut être intéressant de revenir, même si c'est un petit peu après le tournant de la rigueur, sur très rapidement sur Talbot-Poissy, parce que je pense que évidemment il y a des enjeux très contemporains assez grèves dans l'automobile de Talbot-Poissy, et puis d'autre part parce que ça montre bien finalement quelle est l'attitude de tous les gouvernements de gauche dès qu'il y a une grève, dès qu'il y a des revendications, y compris lorsqu'elles sont portées par les prolétaires qui souffrent le plus de l'exploitation, c'est-à-dire en l'occurrence par les travailleurs immigrés.
Oui, mais alors ces grèves de Talbot-Poissy, c'est en 1983 d'ailleurs, dans plusieurs usines automobiles, il y a des ouvriers qui font grève, et ce sont des grèves ouvrières effectivement qui sortent des revendications dites quantitatives hein, portées par la CGT, c'est-à-dire classiquement augmentation de salaire, puisque ce sont des ouvriers qui sont assez peu syndiqués, voilà, ou en tout cas très peu dans une débauchée syndicale, et ils vont demander plus des améliorations qualitatives, notamment plus de temps de pause, contre les cadences, etc., etc. Et il y aura une revendication qui est notamment, alors plus de temps de pause, c'est la revendication globale, et puis comme parmi ces ouvriers, il y a quelques personnes qui sont musulmanes, certains disent, bon, mais pourquoi pas faire les temps de pause pendant les périodes de prière, comme ça, nous, ça nous arrange, et puis tout le monde fait la pause, évidemment, voilà. Et donc, là-dessus, c'est Pierre Mauroy qui est alors Premier ministre, et qui incarne un peu la gauche traditionnelle, hein, puisqu'il était déjà à la SFIO, avant le Parti Socialiste, et c'est la gauche ouvrière du nord de la France, voilà, puisque le nord de la France est une des bastions du Parti Socialiste, justement, contre l'influence communiste. Voilà. Et Pierre Mauroy va opposer clairement, finalement, une classe ouvrière blanche à une classe ouvrière immigrée. Il va reprendre un peu le discours qui est celui du Front National aujourd'hui, ou plutôt le Front National va reprendre ce discours-là. Hein. Il va s'implanter, d'ailleurs, sur les terres de Pierre Mauroy et du socialiste du Nord, avec un peu ce discours-là. Et il va même avoir Pierre Mauroy des discours qui va chercher à poser la question de l'islam, puisqu'il va dire que ce sont des grèves d'ayatollahs, d'islamistes, etc. Et pas du tout considérer ça comme des grèves ouvrières légitimes. Et moi je pense qu'effectivement ça montre le rapport de la gauche socialiste par rapport à cette classe ouvrière qui n'est pas dans les syndicats forcément, qui n'est pas encadrée par les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier. Ça montre le rapport finalement du Parti socialiste a changé par rapport à toutes ces grèves de ce qu'on appelait les OS, les ouvriers spécialisés, des grèves dans l'automobile. Il y en avait beaucoup dans les années 68, dans les années 70, voilà, sur les mêmes types de revendications. Et des syndicats, un syndicat comme la CFPT par exemple, soutenait ces grèves, voilà. Et on voit que, alors la CFPT évidemment ne les soutient pas, le Parti socialiste ne les soutient pas, et on voit que leur rapport aux grèves, dès qu'ils sont au pouvoir, est totalement modifié, puisque ces grèves vont être dénoncées, voilà, il y aura, par ailleurs, hein, contre ces grèves, il y aura des commandos fascistes d'un syndicat qui est à l'époque la CFP. Ils sont des syndicats créés par les patrons et composés d'ouvriers, pour le coup, qualifiés, hein, notamment des contremaîtres, des gens qui encadrent la classe ouvrière, hein, qui donnent des ordres, des chefs d'atelier, etc., et qui sont ouvertement racistes, et qui sont clairement d'extrême droite. Et le Parti Socialiste a évidemment, plutôt que de dénoncer ces milices fascistes, dénoncé les grèves supposées islamistes. Ça révèle un peu le rapport du Parti Socialiste à l'égard des révoltes sociales.
Oui, c'est effectivement intéressant de finir là-dessus, puisque ça anticipe évidemment tout le discours raciste, islamophobe du Parti Socialiste depuis lors. Et puis, je pense que ce que peut nous enseigner de manière générale, finalement, 44, 47 comme 80, 83, et là, on s'inscrit vraiment totalement en faux avec ce que dit Serge Halimi, c'est que le problème, ce n'est pas qu'il aurait fallu des luttes sociales pour accompagner la gauche au pouvoir, mais en réalité, les luttes sociales autonomes et la gauche au pouvoir sont foncièrement incompatibles. La gauche au pouvoir fait tout pour saboter, minimiser encadrer les luttes sociales. Et ce qui est finalement logique, puisque une fois qu'elle est au pouvoir, elle veut être l'unique gestionnaire du capital, co-gestionnaire, disons, du capital avec la bourgeoisie d'État et avec les capitalistes. Mais évidemment, ils ne veulent pas voilà, que leur schéma macroéconomique soit perturbé par des luttes sociales d'en bas. Et je pense qu'on peut conclure sur le fait que, évidemment, le livre de Serge Halimi, d'un point de vue, on va dire, historique, n'est pas complètement inintéressant. Il y a un certain nombre d'analyses politiques qui sont assez intéressantes, notamment pourquoi est-ce que voilà, le Parti communiste français, dans les années 70 et 80, va progressivement voilà, se dissoudre par le fait que il est doublé sur sa gauche par le Parti socialiste. Et il est doublé sur sa droite par le Front National, parce qu'il faut bien se dire que le Parti communiste français, dans les années 80, a un discours extrêmement voilà, conservateur. Hein. Serge Halimi parle de national-populisme matiné d'ordre moral. Et d'ailleurs, on pourrait dire que, même si on pas forcément pour l'ordre moral, mais enfin, on peut parler vraiment de national-populisme pour la France insoumise. Et je pense que finalement, à l'encontre de ce que dit ce livre, c'est-à-dire, il faut des partis de gauche au pouvoir et un mouvement social qui accompagne ce parti de gauche, eh bien, il faut dire qu'il ne faut pas de parti de gauche au pouvoir parce que c'est un obstacle aux luttes sociales et qu'il faut au contraire tout miser sur des luttes sociales autonomes puisque la gauche au pouvoir, et je pense que le livre de Serge Halimi, malgré lui, le montre très bien, ça ne donne rien de bon.
Pour parler de l'actualité, il y a eu cette marée populaire, donc avec la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, qui ont réussi à agréger des syndicats derrière eux. Alors heureusement, ça a été un échec total, mais je pense que ça préfigure effectivement ce qui nous menace. Parce que effectivement, Jean-Luc Mélenchon, on avait fait une émission un peu pour en rigoler, pour se moquer, et là je pense que maintenant, il faudra prendre au sérieux ce danger, et je pense qu'il y a un véritable danger, parce qu'on a vu l'exemple de Syriza, etc. Danger pour plusieurs raisons, c'est que la première, c'est que justement les luttes sociales ne soient plus aussi importantes, puisque les syndicats disent de plus en plus, alors pour l'instant c'est pas le cas, hein, mais il peut y avoir une évolution au sein des syndicats en disant, de toute manière, si Mélenchon est élu, ou en tout cas si un candidat de la France Insoumise arrive au pouvoir, aux prochaines élections présidentielles, de toute manière, voilà, les choses changeront. Mélenchon avait même dit, n'allez pas aller voter, ça vous économisera des kilomètres de manifestation. Donc ce discours-là de désamorcer les luttes, et je pense qu'actuellement, vu l'état des syndicats, la CGT et Solidaires vont clairement soutenir Mélenchon, et soutenir Mélenchon, y compris en disant aux gens qui veulent lutter, attendez, calmez-vous, etc. Et je pense que les principes de la charte d'Amiens, hein, qui est l'autonomie du syndicalisme et du mouvement social par rapport aux partis politiques, risquent d'être qu'un papier qui fait beau dans les textes de congrès, mais qui ne va pas être réalité. Et moi, j'ai peur de ça, que le mouvement social soit de moins en moins autonome. Et d'autre part, si Mélenchon arrive au pouvoir, alors il y a une théorie, on va dire, qui serait de dire que finalement, d'un point de vue libertaire, si Mélenchon arrive au pouvoir, c'est pas plus mal parce qu'on voit qu'il échoue et puis ça peut permettre de relancer les luttes sociales, etc. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que quand la gauche arrive au pouvoir, et qu'elle échoue, hein, elle échoue toujours, elle n'arrive pas toujours au pouvoir, mais quand elle est au pouvoir, elle échoue, ça ne débouche pas vers les luttes sociales. Ça débouche davantage vers du désespoir, vers de la résignation, vers du fatalisme. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de résignation et de fatalisme. Et Mélenchon suscite très peu d'espoir, mais si jamais il suscite de l'espoir et que cet espoir est déçu, ça ne va pas déboucher vers une révolution sociale. Ça va déboucher vers un écrasement total des révoltes. Et je pense que c'est important de pointer aussi ces choses-là, qu'on peut voir d'un bon œil, oui, Mélenchon progresse dans les élections, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, que le combat culturel, finalement, on arrive à le gagner, la bataille idéologique, la bataille des idées n'est pas perdue, c'est même une espèce de thermomètre, de voir que finalement, plus Mélenchon est haut, plus ça encourage les luttes sociales. On entend beaucoup ce discours-là, on l'a entendu au dernières élections. Et là, je pense que Mélenchon risque de prospérer sur la résignation sociale plus que sur une montée des luttes.
Oui, oui, je pense que d'ailleurs c'est une bonne manière de conclure là-dessus, puisque c'était aussi ce qu'on avait dit d'ailleurs dans notre analyse à la fois de Mélenchon au moment de l'élection de 2017 et dans notre analyse du mouvement social du printemps 2018, c'est que la gauche prospère sur la défaite des mouvements sociaux. On peut prendre l'exemple, évidemment, la défaite du cycle de lutte des années 68, a débouché sur la victoire de Mitterrand. La défaite, entre guillemets, de la résistance armée et de ses idéaux de révolution a débouché sur le pacte gaullo-communiste dont tu parlais. Et la défaite des derniers mouvements sociaux auxquels on assiste risque également de porter au pouvoir Mélenchon, ou peut-être même encore pire Marine Le Pen, enfin disons le national-populisme de gauche ou de droite, et même si c'est le gouvernement, même si c'est le national-populisme de gauche qui l'emporte aux prochaines élections, eh bien, comme l'a montré bien involontairement Serge Halimi, eh bien ça débouchera, effectivement, comme tu l'as dit, sur une atonie encore plus lourde des luttes sociales. Puisque après la défaite du Front populaire en 1938 et de la grève générale de novembre 1938, eh bien finalement les prolétaires se sont résignés tant bien que mal à la Seconde Guerre mondiale. Après 1947 et l'éjection du Parti communiste du pouvoir et la défaite des grandes grèves des mineurs du Nord, eh bien la conflictualité sociale va chuter quand même très fortement et on retrouvera plus de tels niveaux de conflictualité sociale avant la fin des années 60. Et puis évidemment, après 83, en dehors du mouvement des étudiants de 86, il faudra atteindre 1995 pour retrouver un mouvement social digne de ce nom. Donc je pense que effectivement, malgré ce que dit Serge Halimi, que la gauche soit à la conquête du pouvoir ou qu'elle y soit, c'est finalement mauvais pour les luttes sociales et pour l'émancipation sociale. Et si il y a des leçons à tirer de l'histoire de la gauche au pouvoir, ce n'est pas qu'il aurait fallu faire mieux, ce n'est pas qu'il aurait fallu faire différemment, c'est que il faut empêcher que les classes populaires et les individus de classe moyenne qui n'en peuvent plus de l'ordre existant, eh bien se tourne vers des formes d'organisation et surtout des formes de lutte autonome pour l'amélioration immédiate des conditions d'existence et pour le dépassement du capitalisme, pas pour la victoire d'un parti de gauche qui ne peut aboutir, comme ça a été par le passé, qu'à une situation encore pire que celle qui l'a mené au pouvoir.
Un bilan critique de l'échec de la gauche, d'autant plus que on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a pour modèle en propre, en dehors du Beaujolais, son autre modèle, c'est François Mitterrand. Ce qui en dit long sur son bilan critique de la gauche au pouvoir. Moi, je pense qu'effectivement, il considère que tout ça a été formidable. Donc, il n'y a même pas de regard critique sur toute cette histoire-là. Et ça, effectivement, c'est assez révélateur, finalement, que c'est pas une gauche qui cherche à transformer la société ou quoi que ce soit. C'est une gauche qui cherche avant tout à arriver au pouvoir.
Voilà, ben, je pense que c'est un beau mot de la fin. Et contre la gauche qui veut arriver au pouvoir, eh bien, il faut opposer des luttes autonomes qui veulent en finir avec le capitalisme. Voilà, merci Sylvain.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.